Vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus, à l'émission de littérature. Et là, en direct avec nous et par téléphone, nous avons Muriel Pic pour parler de son texte « Le montage de témoignages dans la littérature sur Holocauste » de Charles Reznikov, qui est paru l'année dernière aux éditions Prétexte. Charles Reznikov, qui est un poète, qui était un poète américain objectiviste. Bonsoir Muriel Pic, merci beaucoup d'être au téléphone avec nous.
Bonsoir Dominique.
Alors, ma première question, vous dites à un moment donné, Reznikov supprime la subjectivité énonciative du témoin dans le poème en effaçant la personne de ce dernier au profit de l'énonciation collective des victimes. Alors, ma question, c'est l'objectivisme du texte lui donne-t-il une valeur générique ?
Bien, disons que ce qui là me semblait très important, c'était de donner à voir ce travail chez Reznikov, de prise de parole au nom d'une communauté anonyme qui ne pouvait plus parler, en fait. Hein, et qui, du coup, l'obligeait finalement à effacer la personne du témoin, pour donner la parole, en fait, à ceux qui étaient morts, à partir du témoignage du survivant. Donc il y a comme ça un déplacement énonciatif qui est extrêmement intéressant chez lui. Générique, je sais pas trop. C'est, bah, disons qu'à partir du moment où c'est un groupe, on peut parler, oui, de générique. Mais bon, là, c'est vraiment le groupe des morts, hein, en fait, hein, qui prend la parole. Donc c'est pour ça qu'il va élimine le témoin.
Alors tout ce qui est personnel est donc gommé.
Voilà, en fait, par exemple, les témoins souvent dans les procès, enfin dans n'importe quel procès, hein, le témoin pour justifier en fait pour bien marquer la vraisemblance de sa parole, hein, pour bien montrer qu'il dit la vérité, va donner par exemple l'heure. J'ai regardé ma montre, c'était à telle heure, ça donne un gage de vérité. Donc ça, on le prouve dans les témoignages. Hein, les témoins se souviennent, sont marqués comme ça par une heure précise. Là, il va éliminer tout ce genre de détails. Les détails de lieu aussi, enfin donc le temps et le lieu sont comme en fait effacés. Et il va mettre en place plutôt un processus de cadrage en fait. Hein. Donc c'est pas du tout ce détail qui en fait fonde ce que Barthes appelle l'effet de réel, qui est utilisé, mais plutôt une stratégie du cadrage. C'est-à-dire qu'il va choisir des images fortes dans le propos des témoins, à partir duquel il va cadrer, faire un gros plan et produire une image qui va frapper de façon beaucoup plus forte l'imagination et du lecteur, en fait, qui va du coup vraiment être confronté comme ça à cette réalité par un autre moyen que celui du détail.
Voilà, un moment.
Si j'ai été assez claire.
Vous êtes parfaitement claire. Parfaitement.
Détail et cadrage.
Claire. Tout à fait, le détail du cadrage, c'est très très clair. Alors on va aborder une autre notion, mais qui est très très proche. Vous dites, c'est par la mesure du vers que l'écriture objectiviste restitue la démesure des hommes. C'est une phrase vraiment magnifique, ça. Expliquez-nous un peu cela. Restitue la démesure des hommes.
La démesure des hommes, c'est ce génocide, c'est d'avoir pris, enfin d'avoir, non pas pris, mais d'avoir mis la raison, c'est la thèse d'Adorno et d'Horkheimer, hein, d'avoir mis la raison au service de l'extermination.
Et en quoi l'écriture
En
quoi l'écriture objectiviste va réussir à faire prendre toute cette mesure ?
Ben, c'est justement c'est cette scansion qui est extrêmement précise et qui va réussir à tenir dans les limites de la versification, qui va produire comme ça une tension, enfin qui va lutter contre tout débordement, qui va pouvoir restituer comme ça finalement ce qui nous dépasse complètement, cette démesure. Enfin, il n'aurait servi à rien de s'étaler sur des pages et de faire des descriptions sans fin de ce qui a eu lieu. Ce qui compte, c'est la frappe juste, c'est ce rythme-là, cette concision en fait qui arrive comme ça, c'est sharp en fait, hein, comme on dirait en anglais, Reznikov, hein, ça tranche dans le vif, ça dit les choses directement finalement.
Alors j'aimerais qu'on aborde maintenant la technique du montage. Vous avez cette phrase magnifique, elle aussi. Grâce au montage, le témoignage se défait de sa fonction de preuve au profit d'un retour à cet état de trace, fragment de vécu, qui garantit de pouvoir restituer quelque chose de la vérité. J'ai envie de vous poser comme question, qu'est-ce qu'apporte cette technique du montage ?
En fait, le montage, déjà cet article s'inscrit dans un travail plus vaste que je mène sur la question du montage littéraire. Et en fait, le montage, son intérêt principal à mes yeux, c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle moi le matérialisme littéraire, c'est-à-dire qu'il va prélever une trace, il va prélever et il va la garder dans son authenticité de fragments. Il va prendre juste un petit morceau comme ça et il va le monter à d'autres petits morceaux. Ce qui fait une fois encore que là, on va être évacué toute subjectivité qui serait narratrice. Hein, et simplement, c'est la subjectivité de l'auteur du montage sera visible, perceptible par les choix de fragments qu'il fera. L'intérêt de tout ça, c'est donc de placer aussi le lecteur en contact direct, plus direct avec les traces. Puisque là, avec Reznikov, on a vraiment ces documents qui sont... On a vraiment des fragments de témoignages qu'on peut découvrir, qu'on peut lire, ce qui est extrêmement rare, parce qu'il faut... Enfin, rare, sauf si on veut aller se déplacer aux archives. Donc, il y a vraiment un usage démocratique de la trace. Hein. Tout un chacun peut accéder à ces archives. Hein. Et puis aussi, le montage, du coup, va laisser parler les traces un petit peu. Hein. Il a un double régime. C'est le régime des ressemblances et des différences. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se ressembler entre ces fragments, qu'il va rendre lisibles. Et en même temps, comme le principe est la juxtaposition, ça va produire du choc. Donc, on va toujours être mis à distance parce qu'on va être surpris. Et du coup, on va devoir exercer son esprit critique. Hein. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle, ce que Brecht, c'est la stratégie de la distanciation, chez Brecht, en fait, qui est un auteur de montage. Hein.
Alors, j'avais envie de continuer sur cette histoire de montage qui me paraît vraiment essentielle, notamment chez les objectivistes. Cette question, c'est le montage est-il une manière de créer de la connaissance ? Est-ce qu'il y a de la connaissance dans Holocaust ? Parce que les faits sont connus, mais est-ce qu'il y a création de connaissances ? Sensible notamment peut-être ?
Eh ben, disons que la connaissance par montage, c'est donc ce que moi j'appelle la connaissance par montage, c'est cette manière de mettre en contact avec les traces, donc de connaître par soi-même, par ce double régime, mais c'est aussi, dans le cas précis de Reznikov, hein, renvoyer le lecteur qui veut se renseigner aux sources. Donc, disons que la question de la connaissance, elle est déjà dans la démarche du poète, qui lui va, comme un historien aux archives, chercher ses fragments et les choisit, les prélève et les monte. Et après, son lecteur sera aussi inscrit, si vraiment il veut connaître le secret, disons, du texte, dans cette même démarche. Il faudra retrouver ses fragments, finalement, pour réussir à bien comprendre comment fonctionne le texte. Hein. Donc, il y a comme ça, des deux côtés, sur les deux pôles du producteur et du récepteur, une démarche cognitive. Hein. Et après, il y a une connaissance qui passe donc par cette expérience de remémoration que produit le montage en nous plaçant face aux traces sur ce double régime de ressemblance et de dissemblance, hein, d'analogie et de choc. Hein. Il y a une expérience de lecture, hein, qui va faire expérience de mémoire. Simplement parce qu'on va, on va être mis face à ces images et finalement, quelque part, grâce au texte littéraire, d'une façon tout à fait différente du texte historique, finalement, quelque part, les revivre.
Très bien.
Ce qui est également l'expérience vive de remémoration, c'est ce qui va baigner aussi toute la théorie de l'image dialectique, en fait, chez Walter Benjamin, par exemple. Donc c'est vraiment un contact avec le passé, un contact avec la mémoire qui est propre à la littérature et qui n'a de droit d'exister que dans la littérature. Le texte historique, lui, n'a pas à rendre compte de cette expérience. Hein. C'est ce que dit Arlette Farge, par exemple, dans Le goût de l'archive. Quand moi, je vais aux archives, elle nous dit j'ai comme ça, quand je touche les papiers, j'ai une expérience, les fantômes se lèvent autour de moi. Et ça va participer de mon travail scientifique. Mais, au moment de rédiger l'ouvrage, je n'aurais pas à rendre compte de cette expérience-là, de cette expérience sensible, atmosphérique. Hein. Je n'en rendrais pas compte. Et pourtant, elle aura dirigé mon travail, elle l'aura passionné, elle l'aura emporté, finalement. Mais je n'en rends pas compte. Et du coup, la littérature peut récupérer cette expérience-là.
D'accord.
Et c'est ce que fait Reznikov.
Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses, Marielle Pic. Merci beaucoup d'avoir été au téléphone en direct avec nous. Merci, bonne soirée à vous.
Au revoir.
C'était donc Muriel Pic pour ce texte, le montage de témoignages dans la littérature, Holocauste de Charles Reznikov, qui est paru dans la revue Critique du mois de novembre 2008.